qui se préparent, certains à leur profession de foi, d'autres à leur première communion et d'autres à leur baptême. Nous les accompagnons de notre prière. Nous avons aussi des jeunes terminales de l'institution de l'Immaculée Conception de Laval qui, eux, se préparent à passer leur baccalauréat. Voilà, nous leur souhaitons une belle réussite. Et nous avons aussi une chorale qui vient d'Angers, qui vient nous soutenir et nous aider à prier. Merci à vous, voilà, pour nous aider à rentrer dans cette louange. Et puis, avec des chrétiens qui viennent quelquefois habituellement, nous avons aussi des membres de notre famille spirituelle. Notre famille spirituelle est composée des frères qui sont là, il y a aussi des religieuses et des laïcs. Et tous ensemble, nous essayons de vivre, je veux dire, de suivre quelque part Marie, limitée dans sa vie d'offrande au Christ, pour rejoindre le Christ. Manière de vivre une spiritualité de simplicité, de joie, d'offrande. Eh bien, puisque nous sommes dans ce troisième dimanche qui nous prépare à Pâques, hein, nous sommes dans le carême, nous sommes quasiment presque à mi-chemin. Donc il est important de se ressaisir, de se poser, de s'asseoir, comme le Christ l'a fait auprès de la Samaritaine, pour vraiment rentrer dans la profondeur de nous-mêmes et écouter cette parole de vie que le Seigneur veut nous donner. Il lui a dit, comme il nous dit à chacun d'entre nous, « Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, ce don de Dieu que le Dieu veut nous donner, son Esprit Saint. » Et pour accueillir le Seigneur dans l'Eucharistie, ouvrons notre cœur à ce don de Dieu qui est un don de miséricorde. Viens, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manqua d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meghiba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mise à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous ou non ?» Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu donc plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va. « Appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu ? » ou bien, « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger !»
Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Déjà maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers jeunes, chers amis, chers frères et sœurs, je dis chers jeunes parce qu'ils sont très nombreux. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu l'ensemble des lectures, mais elles sont assez longues. Et on a vu quand même que dans l'Évangile, Jésus a pris du temps, tout son temps, pour être là, à attendre. Alors je crois qu'on peut prendre à nous-mêmes un petit peu de temps pour être avec Jésus et puis essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première lecture. Alors, je crois qu'il faut peut-être la resituer dans le contexte. On se trouve à un moment tragique de l'Exode, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, d'un tout un peuple. Ce peuple, avant d'en arriver là, c'est-à-dire à un moment crucial où il n'a plus à boire, il se trouve dans le désert, sous le cagnard, il n'y a plus d'eau, ils sont nombreux. Et il y a un vent de panique qui se saisit de ce peuple, de quelques-uns, puis que ça gagne tout le peuple, et qui menace de mort celui qui les a entraînés dans le désert, Moïse. Moïse panique à son tour, et il se retourne vers Dieu pour crier au secours. Alors ce peuple, à l'origine, c'était une famille de Jacob, qui pour pas mourir de faim, s'était réfugié de la terre de Canaan en Égypte. Ils sont restés 400 ans en Égypte. Ils sont devenus un peuple. Il est arrivé à un moment donné un pharaon qui a commencé à voir d'un mauvais œil ce peuple parmi eux, qui pourtant participait, j'allais dire, au développement du pays. Et il a planifié un génocide, détruire ce peuple. Il a commencé doucement par le réduire en esclavage. Ensuite, il a programmé la mort de tous les nouveau-nés garçons et de les jeter au fleuve, afin qu'il ne reste que les filles qui puissent servir comme esclaves. Il se trouve que ce peuple a crié dans son cœur. Ils n'avaient pas de quoi se défendre. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui s'appelle Moïse, qui était un condamné à mort, qui avait été élevé à la cour de Pharaon, et qui s'était enfui dans le désert. Et c'est celui-là que le Seigneur vient chercher. Ce condamné à mort, j'allais dire cet exilé qui fuyait, que le Seigneur a rencontré, qui lui a demandé d'aller délivrer, sortir ce peuple de la mort.
et il l'a fait par la puissance de Dieu, ce peuple n'a pas pris les armes, ne s'est pas révolté. Il a crié vers Dieu qui a agi pour lui. Il a sorti d'Égypte. Pharaon s'est ressaisi quand il est sorti d'Égypte pour les poursuivre, les ramener, peut-être les détruire. Et là, une deuxième fois, Dieu les a sauvés. Et Pharaon, dans son aveuglement, s'est perdu dans les sables, dans des sables mouvants du Nil. Il y a perdu son armée. Mais le peuple a été sauvé. Et d'étape en étape, de source d'eau en source d'eau, ils sont arrivés au pied d'une montagne. Et là, la source était à sec. Et vent de panique, l'aveuglement, la colère, de ne pas vouloir mourir, c'est le cri du cœur qui sort. Ils se sont retournés contre celui qui les avait sortis, Moïse. Moïse a eu peur pour sa vie. Il a crié vers Dieu. Et Dieu a entendu par Moïse le cri de ce peuple. Il a fait jaillir une source d'eau. Il a sauvé ce peuple encore une fois. Nous sommes dans cette traversée du désert du carême. Il est possible que dans notre traversée, nous sommes envahis par toutes sortes de choses qui habitent notre cœur, peut-être de la révolte, ou je ne sais quelle blessure, ou je ne sais quoi encore. Et là, on se referme, se replie sur nous-mêmes. C'est le moment aujourd'hui de désensabler notre cœur et de crier vers le Seigneur. Et c'est ce qui se passe dans cet évangile. Alors si vous voulez bien, prenons un petit peu de temps, nous avons tout notre temps, pour essayer de faire cette rencontre avec Jésus à travers cette Samaritaine qui nous représente chacun d'entre nous. Et dans ce récit, il y a un puits au cœur du désert, le puits de Jacob, qu'il avait donné à son fils Joseph. Et si Jésus arrive par là, c'est que lui-même, il s'écartait, il fuyait quelque part la vindicte des pharisiens et ne voulait pas faire d'ombrage à Jean-Baptiste qui baptisait, et les disciples de Jean-Baptiste ne comprenaient pas pourquoi les disciples de Jésus baptisaient aussi. Ça créait une crise de jalousie. Et donc Jésus a préféré partir pour revenir, j'allais dire, de la Judée à la Galilée. Pour ça, il lui fallait traverser la Samarie, traverser un désert et se retrouver à un puits. Il y a sur ce puits une cruche d'eau vide, déposée comme une réalité de vie qui s'abandonne. Il y a aussi une femme qui est arrivée sur le coup de midi, qui doucement est rentrée dans un dialogue qui a ouvert son cœur à l'écoute de Jésus. Et finalement, Jésus s'est manifesté comme le Messie et il a trouvé en la Samaritaine, cette païenne, si on veut, cette hérétique par rapport aux Juifs, la première adoratrice en esprit et en vérité qui a accepté d'ouvrir son cœur et de descendre à la source. Cependant, il faut garder à l'esprit que cette femme allait puiser tout simplement de l'eau. Et l'Évangile ne nous dit pas qu'elle avait des besoins spirituels particuliers. Elle allait chercher de l'eau. Nous pouvons déduire de ce récit qu'il s'agit d'une jeune femme, enfin d'une femme, je veux dire, aimante, convoitée par sa beauté. Une jeune femme qui s'abandonnait facilement à un amour désiré, qui après tout semblait heureuse ou du moins se contentait de sa vie. Elle a déjà eu 5 maris et vivait avec un autre homme. Il ne semble pas, d'après l'Évangile, qu'elle ait eu des remords, qui préparait sa rencontre avec le Christ. Non, elle marchait, peut-être en chantant, portant une cruche, une jarre, une amphore vide sur la tête ou sur les épaules, heureuse peut-être de vivre et heureuse d'être aimée, tout simplement. Son langage avec le Seigneur, à qui elle répond en ramenant le discours à un niveau simplement, purement, ses besoins naturels, humains, montre qu'elle était loin de prévoir ce qui allait se passer et qu'elle était aussi loin de désirer quoi que ce soit. Il peut nous arriver à nous aussi de rencontrer le Christ là où nous n'aurions jamais pensé le trouver, à l'improviste peut-être. Souvent nos rencontres les plus vraies, les plus profondes, les plus vives avec Dieu n'ont pas eu lieu là où nous pensions qu'il nous attendait. En effet, Dieu est prêt à nous recevoir dans les endroits les plus inattendus, dans les moments les plus imprévisibles. L'important n'est pas de se satisfaire d'une soif passagère, de ne pas étouffer la question du sens que le corps manifeste aussi, mais de se laisser attirer doucement par le Christ à d'autres profondeurs afin que nous restions en lui, lui qui, par son Esprit Saint, bien sûr, infuse en nous une nouvelle vie. C'est celle-là qu'il faut découvrir. C'est grâce à ce processus qui implique temps et liberté. Dieu a tout son temps. Et il interroge notre liberté. Que les événements de la vie s'introduisent dans notre vie, deviennent des rencontres qui vont nous transformer. L'important, c'est d'être en chemin. Jésus a marché tout le temps. Il faut saisir ces passages. Comme cette femme, même comme saint Paul, vous savez, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Ces deux personnes, la Samaritaine, saint Paul, nous aussi, nous avons à rencontrer le Christ à un moment où nous y pensions peut-être le moins, où nous semblions le moins préparés pour la rencontre. C'est ainsi la beauté des rencontres avec Dieu. Souvent, elles ne sont pas liées à nos efforts. Elles sont un cadeau d'amour infini, un don, qui nous surprend, nous remplit d'étonnement et nous conduit à la gratitude. Surpris par ce don inattendu, nous sommes dans la joie. La joie, c'est l'épreuve traversée. Parce que nous expérimentons au fond que nous sommes aimés. C'est ça d'abord. On découvre qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui nous aime, et que la soif d'une vie pleine et durable reçoit la réponse dans une personne, la rencontre d'une personne, le Christ. J'ose aussi dire que dans la rencontre avec le Christ, nous recevons de lui le don de nous-mêmes. On se retrouve. C'est au fond la rencontre d'un pauvre qui demande pour pouvoir donner. Et dans son exode de la Judée en Galilée, Jésus traverse donc la Samarie, s'arrête à ce puits, dans les environs de la ville de Sychar. Bon, il s'assied sur la margelle du puits parce qu'il est fatigué de marcher. Dieu, on peut l'imaginer, une super toute puissance, etc. Non, il s'abaisse. Il a pris notre humanité pour la vivre pleinement. Il éprouve la fatigue et la soif. Mais il est pauvre. Il n'a pas de quoi puiser l'eau. Il attend quelqu'un qui vienne puiser l'eau pour lui et le désaltérer. Mais son humble requête est au fond un prétexte pour pouvoir se donner lui-même. Nous sommes attendus. Et le Christ est tellement assoiffé de l'amour de chacun de nous qu'il n'hésite pas à demander de l'eau pour son corps et pour pouvoir ainsi s'offrir lui-même comme une source d'eau qui désaltère le cœur. Parce qu'il sait que ceux qui viennent chercher de l'eau au puits ont soif aussi d'une autre eau, même s'ils croient qu'ils n'en ont pas besoin. Le Christ a soif, pas seulement une soif physique, mais une soif spirituelle. Il a soif de nous qui sommes représentés aujourd'hui par cette Samaritaine. Jésus se fait bon Samaritain pour la Samaritaine. Et en lui proposant une soif qui désaltère le cœur, il l'invite à un chemin de conversion, c'est-à-dire de retournement. Au fond, que signifie conversion ? Ce n'est pas seulement un acte de la volonté, c'est une réponse à un amour, l'amour de Dieu, qui s'est fait la voie dans notre monde de vie souvent compliqué, confus, désordonné,
et qui nous rassoiffait de tout. On n'est jamais comblé. Demandons au Christ de verser aussi dans nos cœurs le véritable amour pour que nous ayons un désir constant de lui, de notre désert. Fleurira la vie, où nous serons ainsi toujours dans ses mains pleines de bonté et de miséricorde. Le chemin de conversion que parcourt le cœur de cette femme, de ce mari, n'est pas sans dureté, sans résistance. Et la recherche de Dieu par l'être humain court toujours le risque de la révolte, de se replier, toujours menacé. Et l'évangéliste Jean met à nu les racines de cette fermeture, de cette dureté, en montrant que la Samaritaine ironise, comprend pas, elle résiste, c'est inconnu. En effet, lorsqu'il se laisse aller à ses instincts, à sa réactivité, l'homme n'est plus capable ni de comprendre la parole de Dieu, la présence de Dieu, ni d'interpréter correctement ses propres attentes. Son cœur a soif, c'est comme le cerf. Il désire l'eau, mais il ne la recherche pas de manière juste à cause de ses prétentions, de ses préjugés. Et la femme, quand même, elle est fine. Elle devine quelque chose de cet intrus, de cet étranger, quelque chose du don de par le Christ. Mais elle l'interprète à l'aune de ses propres préoccupations. Elle n'est pas décentrée encore. « Seigneur, lui dit-elle, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, que j'ai pu venir ici pour puiser cette heure brûlante. » Et la tentation de celui qui cherche Dieu est toujours d'enfermer, de maîtriser le don de Dieu à l'intérieur de ses propres attentes. Mais Dieu ne se laisse pas enfermer à l'intérieur des attentes de l'homme. Il les dilate. Et la femme cherche à situer Jésus dans les catégories religieuses traditionnelles. Voilà, on sectorise. Mais Jésus n'hésite pas à montrer qu'elles sont complètement inadéquates. À deux reprises, à propos du don de l'eau et du lieu du culte, la femme évoque la grandeur des patriarches, elle évoque le passé. Quelque chose remonte en elle. Elle évoque le passé. Sa recherche est enfermée dans le passé, figée dans le temps. Jésus l'oblige à regarder l'avenir, à prendre conscience que la nouveauté est arrivée dans le monde et qu'elle bouleverse les fondements du problème. La nouveauté n'est pas quelque chose qui désaltère le corps aride, mais quelqu'un qui comble le cœur assoiffé. Saint Paul avait déjà compris que Jésus est l'eau qui désaltère. Lorsqu'il affirmait « Ce rocher, c'est le Christ », en se référant, bien sûr, au texte que nous avons entendu sur l'Exode, où Moïse frappe le rocher et l'eau qui jaillit. L'eau qu'est le Christ non seulement désaltère, mais purifie et donne la vie. En effet, du côté ouvert du Christ, l'eau et le sang ont jailli. Ce sont nos sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Mais il ne suffit pas d'être désaltéré, purifié, vivifié par l'eau du Christ. Cette eau n'est pas seulement pour nous, elle est pour tous. Et la Samaritaine a compris cela. Elle a planté Jésus là, pour quelques instants, pour aller à la ville, se faisant missionnaire. Le cœur était débordant, la source jaillissait, elle avait besoin de partager ça pour ses concitoyens. Et toute l'humanité a besoin d'être désaltérée, lavée par cette eau du Christ. La Samaritaine, arrivée au point où Jésus voulait la conduire, lâche ses préoccupations passées, son fardeau, son poids, et court à la ville. Sa rencontre avec le Christ se fait communautaire, son chemin devient missionnaire. Cette recherche de cette rencontre de la femme, de Samarie, de ses concitoyens, sont de toute évidence une image du chemin de tout homme vers Dieu. L'Évangile, je ne serai plus encore très long, rassurez-vous. Ça va? Est-ce que j'arrête tout de suite? Ou est-ce que vous voulez que je continue? Je ne veux pas vous embêter, hein. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent qu'on aille jusqu'au bout. Eh bien, marchons. Enfin, plutôt, arrêtons-nous toujours au puits. L'Évangile nous parle d'un environnement inhabituel, un puits et d'un maître inattendu. Et ce maître inattendu, c'est Dieu lui-même. Un maître qui aujourd'hui choisit comme chair la margelle d'un puits, à la hauteur, plus bas même que cette femme. Il ne la regarde pas de haut, il la regarde de bas vers elle. Il lève son regard. Il est là pour transmettre, donner ce qu'il a. De la hauteur de son cœur, et comme auditeur, auditrice, une femme, les disciples sont les premiers à s'en étonner. Ils ne comprennent pas pourquoi il parle à une femme. Soit parce que c'était une Samaritaine, soit parce que c'était une femme. Pourquoi la dévaloriser? Elle est un peu comme Marie-Madeleine auprès des apôtres aussi. Un maître qui demande à boire pour faire puiser la vérité à son cœur. L'Évangile ne dit pas deux fois que Jésus a soif dans cette rencontre avec la Samaritaine et sur la croix. Et c'est sur la croix qu'il continue à dire « J'ai soif », s'adressant à chacun de nous, parce que chacun de nous a soif. Il a accepté de se laisser transpercer le cœur pour que nous puissions communier à son amour. Et il nous dit « Je connais ton cœur, ta solitude, ta souffrance, tes réactions, tes jugements, tes humiliations. Je connais ton désir, je te le fais découvrir. Tout cela j'ai supporté avant toi. Tout cela j'ai porté sur moi pour toi, afin que tu puisses partager aussi ma puissance et ma victoire. Je connais particulièrement ton besoin d'amour et de boire la source de l'amour et de la consolation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, si tu savais le don de Dieu. Je vous donnerai à boire en plénitude. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a soif de notre soif et désire notre désir. Il a besoin de nous. Il a soif d'avoir des frères, tout dit Saint Grégoire de Nazianze. C'est un donné de fait, avec la force de l'amour, nous sommes appelés à répondre à la plainte du Dieu vivant, lorsqu'il est dit dans l'Écriture, « Ils m'ont abandonné, moi, la source de vie, pour se creuser des citernes désardées. » Ou encore sur la croix, « J'ai soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. » Bien, notre prière, pour terminer, est une réponse à la soif du Christ, une réponse de foi à la promesse gratuite du salut, une réponse d'amour à la soif du Fils unique. Pour terminer, juste Thérèse, Sainte Thérèse de Calcutta, qui a passé sa vie à donner à boire à ces mourants qui mouraient de soif, torturés dans leur corps. Elle a voulu que soit écrit à côté du crucifix, elle voyait le Christ dans tous ses pauvres, ses mourants. Elle voyait le Christ crucifié. Et elle a voulu que soit inscrit à côté du crucifix le cri du cœur de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». Eh bien, entendons ce cri de la croix du crucifié, que notre communion soit une réponse d'adoration, d'amour et d'action de grâce. Amen. Merci pour votre patience.